Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jean Frédérics. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série dédiée à l'énergie du futur. Le gouvernement l'a promis, 30 milliards d'euros seront consacrés à la transition écologique sur les 100 milliards du plan de relance qui sera présenté jeudi. Des fonds qui doivent servir entre autres à financer la rénovation thermique. La France compte 7 millions de passoires énergétiques, ces constructions mal isolées qui sont autant de gouffres financiers. Alors la rénovation des bâtiments permettra-t-elle de réconcilier écologie et économie? C'est la question que l'on se pose jusqu'à 15h. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons déambuler dans les chantiers de construction en compagnie d'Olivier Siedler, ingénieur, membre fondateur et porte-parole de Negawatt, une association qui propose une stratégie visant à atteindre un mix énergétique 100% renouvelable en 2050 en France. À 14h50, le journal de l'écho vous sera présenté par l'indispensable Xavier Martinet. Bonjour Olivier Siedler.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis Valence. Alors je l'ai dit, nous entamons aujourd'hui une nouvelle série en 3 épisodes, le lundi étant désormais consacré au débat d'actualité. Olivier Siedler, commençons par un petit état des lieux. Il y a aujourd'hui plus de 21 millions de bâtiments à rénover en France.
Oui, exactement. Si on considère que tous les bâtiments d'avant 1975 sont intégralement à rénover et qu'une partie de ceux qui ont été construits entre 1975 et 2000 le sont également, on s'aperçoit qu'il y a 22 millions de logements exactement qu'il faudrait rénover d'ici 2050, compte tenu qu'un certain nombre des bâtiments existants seront d'ailleurs démolis d'ici là. Donc il en reste 22 millions à rénover. Or, la loi de transition énergétique de 2015 impose que tous les bâtiments existants, le parc donc, soient rénovés au niveau bâtiment basse consommation, on va revenir sur la signification de ces termes, d'ici 2050. Donc, il nous reste 30 ans pour rénover 22 millions de logements, ça en fait un peu plus de 700 000 par an en moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je termine juste sur ce terme de BBC, bâtiment basse consommation. Ce sont des bâtiments qui correspondent aux classes énergétiques A et B, donc des bâtiments qui consomment pas plus de 80 kWh par mètre carré et par an. C'est en gros ce que font les bâtiments neufs, qui sont un tout petit peu meilleurs, mais c'est du niveau des bâtiments neufs qu'on réalise aujourd'hui, voilà.
Et l'avantage de cette rénovation énergétique est double, Olivier Siedler, à la fois. Il s'agit de lutter, bien sûr, contre le réchauffement climatique, mais aussi d'aider les ménages les plus précaires à baisser leur facture d'énergie.
Alors ça, c'est vraiment fondamental d'avoir ça à l'esprit, mais c'est à une condition. C'est qu'effectivement, les rénovations soient performantes, c'est-à-dire conduisent à des très bas niveaux de consommation. Et à partir de ce moment-là, c'est même aujourd'hui la seule manière de dégager les familles en situation de précarité de l'étranglement dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'on les sortira définitivement dans la mesure où les besoins de leur logement, les besoins en kilowattheure, sont réduits à une valeur vraiment devenue ridicule. Et même s'il y a des augmentations du prix de l'énergie sur le marché international, ils seront plus susceptibles de se retrouver en situation de précarité. Je rappelle que on classe en précarité une famille dès lors que plus de 8% de ses revenus sont consacrés au budget énergie. Et vraiment, la rénovation, c'est la seule façon de les sortir de là définitivement, mais à condition qu'elle soit extrêmement performante. C'est pas tout à fait ce qui se fait actuellement, soyons très clairs.
Sur la précarité énergétique, je voudrais vous faire entendre un témoignage. C'est celui de Salima qui vit à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis.
Dites donc, vous avez une vue magnifique d'ici.
Alors oui, nous sommes au 14e étage, ce qui fait que ça permet d'avoir une vue fantastique. Le lever du soleil est vraiment, c'est magnifique. Alors c'est beau de se réveiller tôt et de regarder ça par la fenêtre. Aujourd'hui, je trouve qu'il fait assez froid et bon, on n'a pas de chauffage encore, mais malheureusement, même quand on en a, c'est jamais réglé correctement, c'est trop fort, pas assez fort. Et souvent, nous avons eu des pannes, hein, puisque tout est vieux dans le bâtiment, ce qui fait que pas de chauffage, ni d'eau chaude, ni d'électricité. Donc, on s'est retrouvé plusieurs jours, c'est déjà arrivé, sans rien, sans lumière et sans chauffage. Et ça a été vraiment difficile en plein hiver. Hein, on n'a pas double vitrage. Et quand il pleut, dès qu'il y a un petit peu de vent, bah, toute l'eau rentre dans l'appartement. Donc nous attendons encore une fois des travaux.
Un témoignage extrait d'un épisode de la série documentaire réalisée par Jérôme Sandlaz. À l'instar de Salima, près de 7 millions de personnes se trouveraient en situation de précarité énergétique, Olivier Sidler.
Oui, on considère généralement que les logements qui sont dans les dernières classes de l'étiquette énergie, les classes F et G, sont celles qui correspondent à la précarité énergétique. Tous les occupants ne sont pas dans cette situation-là, puisque ça dépend de leur revenu, mais la majorité d'entre eux y sont. Et il y a 8 800 000 logements dans ces deux catégories de l'étiquette énergie, donc ça correspond à peu près à ça, 7 à 8 millions. Je crois que le chiffre de l'Observatoire de la précarité, le chiffre exact, c'est 6,8 millions de foyers qui seraient en précarité énergétique.
Et ce sont des logements qui consomment plus de 330 kWh par mètre carré ?
Et par an, oui, tout à fait, c'est exactement ça. La classe G commençant à 450 même, et se terminant jamais, ça peut être à 1000 kWh par mètre carré par an, ce qui est absolument considérable.
Et à l'inverse, seulement 25% des Français habiteraient dans un logement consommant moins de 150 kWh par mètre carré et par an. Alors, en quoi consiste la rénovation énergétique ? De quoi parle-t-on exactement quand on parle de rénovation énergétique, Olivier Sidler ?
Alors c'est important effectivement de préciser cette notion parce que chacun y met un peu la définition qu'il a envie, j'ai presque envie de dire, et même nos différents gouvernements également. La rénovation énergétique consiste à faire un ensemble de travaux qui vont conduire à réduire massivement la consommation de chauffage et généralement aussi d'eau chaude sanitaire, voire d'électroménager, dans un logement pour l'amener à ce fameux niveau de l'ordre de 50 kWh par mètre carré par an. Donc ça fait des facteurs de diminution qui peuvent être de 5, 6, 7 ou 8 dans les cas les plus courants, les plus extrêmes pour 8 évidemment. C'est donc un effort qui est considérable. C'est pas une petite affaire. La rénovation, c'est vraiment des travaux qui sont importants, mais qui sont absolument nécessaires et qui, eux, vont amener une économie d'énergie qui va générer une économie financière et qui donnera un intérêt économique à l'opération, aux investissements qu'on fera. Si on fait pas ça, si on fait ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle la rénovation par étapes, par petits morceaux, un jour vous avez envie de changer les fenêtres, une autre fois vous allez isoler un petit peu la toiture, tout ça est fait de briques et de brocs, et donc c'est mal fait en général, et quand on procède de la sorte, d'abord on finit jamais, on termine jamais toutes les étapes, et donc on a des logements qui sont toujours de mauvaise qualité énergétique, toujours, parce que les interfaces, c'est-à-dire les liens entre les différents types de travaux, celui qui isole les murs, celui qui va changer les fenêtres, bah, à cet endroit-là, il y a un tas de choses à traiter. Il y a ce qu'on appelle des ponts thermiques, d'une part, c'est-à-dire des passages privilégiés où la chaleur peut continuer à passer et à filer vers l'extérieur, d'une part. Mais il y a aussi toute la question de l'étanchéité à l'air de ces logements et en périphérie des menuiseries. Il y a des passages qui sont des passages d'infiltration d'air qu'on peut plus tolérer dans ce type de logement. Tout ça est pas traité quand on procède par étapes, et c'est la raison pour laquelle seules des rénovations qui sont faites en une seule fois et où l'ensemble des tâches que j'ai évoquées tout à l'heure sont traitées, seules ces rénovations-là conduisent à des résultats qui sont satisfaisants.
Et pourtant, Olivier Sidler, pardon de vous couper, mais des initiatives ont été prises en 2008, déjà sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Le gouvernement s'est fixé un objectif clair de réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Jean-Louis Borloo était alors ministre de l'écologie. On l'écoute.
Je vous donne l'exemple de mon ministère. On a fait l'audit énergétique. On s'est rendu compte que pour diviser par deux notre énergie, c'est 400 000 euros. c'est rentable sur 8 ans, on a passé un contrat de prestation, c'est-à-dire que c'est celui qui nous fait les travaux, qui nous le paye, qui nous le paye parce que c'est rentable. Eh bien, pour les particuliers qui le souhaiteront, s'ils veulent faire des économies d'énergie, ils auront droit à un prêt bonifié, déductible, et le remboursement sera inférieur à ce qu'ils payent, enfin à l'amélioration de leur coût énergétique. Excusez-moi, tellement épuisé au bout de 4 mois de quelques lunes de négociation. Je suis épuisé, mais heureux.
Mais heureux.
Je l'ai dit maintenant, bon, c'est la mise en place pratique et opérationnelle. On n'est pas dans une république de l'annonce, on est dans une république de l'action.
Jean-Louis Borloo face à Audrey Pulvar sur le plateau de France 2. 2008 a été une étape importante pour la rénovation des bâtiments, Olivier Sidler. Au point d'épuiser Jean-Louis Borloo, apparemment.
Oui, absolument. C'est le Grenelle de 2007, qui a effectivement généré des annonces qui étaient inconcevables, même à l'époque, je me souviens très bien, tellement elles étaient merveilleuses. Mais elles sont construites, ce que dit Jean-Louis Borloo est tout à fait exact. Il y a des prêts bonifiés qui ont été mis en place. Alors, est-ce qu'ils étaient suffisants? Je n'ai plus le souvenir exact. Mais surtout, cette politique-là, qui continue aujourd'hui, c'est une politique construite sur l'incitation. C'est-à-dire, je mets à votre disposition des aides, des prêts à taux bonifiés, voire des prêts à taux zéro même, donc très bonifiés. Et puis, bah, vous faites si vous avez envie de faire. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, nous avons fait faire un benchmark européen à des étudiants de Sciences Po Paris sur la rénovation. Et tous les pays d'Europe, on procède de la même façon, par incitation, avec chacun leurs spécificités, leurs techniques diverses. Bon, ceux qui réussissent le mieux sont les Allemands, qui encadrent énormément, qui donnent beaucoup de subventions. Mais figurez-vous qu'en un an, ils rénovent 30 000 logements au bon niveau, au niveau BBC, alors qu'ils devraient en rénover 1 million par an. C'est-à-dire, ils font 3% de l'effort qu'ils devraient faire chaque année. Alors, on peut continuer à inciter les gens, à leur dire, voilà, on met des mesures à votre disposition et à vous de jouer maintenant, faites-le. Bah oui, personne ne le fait, il suffit de le voir. Ça veut dire que si on continue dans cette voie, on est sûr d'échouer. Ce qui nous amènera peut-être plus tard dans la discussion, on le verra, hein, à changer de stratégie, à aller plutôt vers de l'obligation.
On va voir effectivement les autres stratégies qui existent, mais d'abord sur les mesures qui ont déjà été prises ces dernières années, ces dernières décennies. Il faut également citer le chèque énergie qui avait été mis en place sous la présidence de François Hollande en 2015. C'est une mesure qui s'adressait aux plus modestes. Ça a été efficace, ça, Olivier Sidler ?
Non, en soi, c'est pas efficace parce que c'est des montants qui sont vraiment trop faibles. C'est des montants qui servaient surtout à payer la facture d'énergie, pas à rénover le logement. Les grandes dispositions qui existaient ces dernières années, c'était le prêt à taux zéro qui pouvait monter jusqu'à 30 000 euros. Ça, c'est vraiment une disposition qui était très intéressante. C'était le crédit d'impôt transition énergétique qui, pour un couple avec 2 enfants, se montait à 5 000 euros de subvention. C'était les aides de l'ANA, mais qui n'étaient pas dues à tous les... Ça dépendait des revenus, là encore. Et donc, pour les revenus les plus modestes, ça pouvait atteindre, voire dépasser un peu 10 000 euros. Et puis, il y avait ce qu'on appelle toujours, d'ailleurs, les certificats d'économie d'énergie, qui ont eu des fortunes diverses. Il y a quelques années, ça nous valait 3 à 4 000 euros de subvention, de nouveau, par logement. Aujourd'hui, ça dépasse 10 000 euros. Donc, il y a... On peut le dire, aujourd'hui, celui qui veut faire des travaux a à sa disposition un certain nombre d'outils financiers pour les réaliser, mais pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait rénover 700 000 logements par an. Il n'y a absolument pas l'argent pour rénover 700 000 logements par an. Il y a de quoi en rénover 40 ou 50 000, c'est tout.
Vous dites qu'il faudrait 25 milliards d'euros d'aide par an, alors que je crois que l'année dernière, pour la rénovation énergétique, c'était 4 milliards d'euros d'aide.
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est les travaux pour rénover 700 000 logements par an au bon niveau de performance, c'est-à-dire au niveau BBC, reviendraient effectivement à 24 milliards TTC par an. Les aides nécessaires pour cela, ça peut être soit 24 milliards, mais ça coûte extrêmement cher à l'État, soit passer par d'autres modes de financement. On peut en parler tout de suite si vous souhaitez, on peut en parler plus loin dans l'émission.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, effectivement, ce que j'ai voulu montrer, c'est que il y avait une façon astucieuse d'utiliser l'argent public qui consistait non pas à tout mettre dans de la subvention, ça c'est ce qui coûte le plus cher à l'État, mais que l'État finance ces travaux, ces 24 millions, par des prêts à taux zéro. Alors, on va me dire, les banques n'aiment pas beaucoup
milliards.
Ça.
Mmh.
Oui, 24 milliards. Aujourd'hui, l'État emprunte jusqu'à 15 ans à des taux négatifs, c'est-à-dire on le paye pour qu'il emprunte. Donc on ne sait pas pourquoi il n'emprunte pas plus, d'ailleurs. Et donc j'ai fait une estimation dans laquelle on rendrait obligatoire la rénovation, mais pour ça il faut que, effectivement, pour chaque ménage français, sans exception, le financement lui soit fourni. Ce financement, il serait fait sur des prêts à taux zéro, uniquement pour des rénovations complètes et performantes. Et à ce moment-là, ça coûterait, aux conditions actuelles, 2 milliards, un tout petit peu plus, 2 milliards 100 par an à l'État pour financer les prêts à taux zéro. Donc avec 2 milliards, ils financent 24 milliards de travaux. Et les gens, avec une disposition comme celle-là, avec des rénovations complètes et performantes, gagnent suffisamment d'argent chaque année par la réduction de leur consommation d'énergie, que les annuités du remboursement sont inférieures à l'économie d'énergie. C'est-à-dire que les gens vont gagner de l'argent dès la première année.
Mais encore faut-il, Olivier Sidler, que ces travaux effectivement soient effectués de façon efficace. Or, ce que l'on constate, c'est que le problème de la rénovation énergétique est encore présent. Aussi parce que les arnaques se sont multipliées dans le secteur. Je vous propose d'écouter des témoignages recueillis en Haute-Saône par nos confrères de France 3.
Oui, le boulot qui a été fait. Alors, tout s'arrache aussi. Là, on peut même pas ouvrir la porte.
Vous êtes sur un isolant qui n'est pas adapté du tout. C'est-à-dire que cet isolant-là est prévu pour l'isolation sous rampant ou l'isolation de mur, mais pas de plancher.
Moi, je vais autant payer peut-être aller un petit peu plus, alors du beau travail de fait. Voilà, même si on donne 100 euros, 200 euros, voilà, du bon travail, pas un bon professionnel. Mais là, c'est pas des professionnels. Même moi, j'aurais mieux fait que ça, les travaux.
Comment expliquer, Olivier Sidler, que les arnaques soient légion dans un secteur qui est celui de la rénovation énergétique, et comment est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène ?
Alors, le dispositif qui est en cause, c'est les fameux travaux à 1 euro. En fait, c'est un dispositif qui est très astucieux en lui-même, puisqu'il s'agit d'aller récupérer par les professionnels les certificats d'économie d'énergie. Je le rappelle, ce sont des subventions, on va appeler ça comme ça, qui sont dues par ce qu'on appelle dans notre langage les obligés, c'est-à-dire les gens qui produisent de l'énergie ou qui en vendent, c'est-à-dire même les stations-service aujourd'hui sont contraintes de fournir des certificats d'économie d'énergie. Et c'est ça, d'une certaine façon, c'est une taxe sur l'énergie, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Et ces certificats sont récupérés directement par les professionnels qui, sous certaines conditions de revenus et de performance, on va pas vous mettre des épaisseurs d'isolant considérables, peuvent boucler les travaux pour 1 euro. Alors, évidemment, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que vous et moi, même si on n'a jamais manipulé aucun outil de chantier, on peut très bien vendre ça à des particuliers. C'est exactement ce que la personne interviewée répondait. Ça a été fait n'importe comment. Même moi, j'aurais fait mieux, dit-il. Et c'est ce manque de contrôle des entreprises qui ont pris en charge ces opérations à 1 euro. On leur demande pas de qualification, n'importe qui peut le faire. Et forcément, ça a attiré un certain nombre de margoulins.
Mais il y a eu une prise de conscience de ces difficultés, puisqu'il y a une nouvelle loi, par exemple, qui interdit le démarchage téléphonique abusif.
Ça, c'est très bien, ne serait-ce que pour notre tranquillité mentale quotidienne, parce que 5 ou 10 appels par jour, c'était vraiment un peu trop. Mais ça va pas tout régler. C'est-à-dire que je peux vous démarcher autrement que par téléphone. Je peux aussi faire du porte-à-porte, je peux faire n'importe quoi. Et ça va pas amener à un contrôle de la qualité des prestations. Et ça, il faudra bien qu'on y arrive de ce point de vue-là. Je parle pour l'opération 1 euro. Pour les autres opérations, quand vous faites appel à des artisans, il y a une labellisation qui a été mise en place depuis déjà quelques années, qui s'appelle RGE, reconnu garant de l'environnement. Le problème, c'est que cette formation que subissent les artisans pour obtenir cet agrément, elle est quand même un petit peu légère. Et moi,
elle est très facile à obtenir.
Ben oui, elle est très facile à obtenir, très très facile même. Moi, je donnais des formations à des artisans il y a quelques années dans le cadre d'un autre dispositif qui s'appelle Dorémy. Et les gens me disaient, oh ben, en une demi-heure, on a appris plus avec toi qu'en trois jours. Dans la...
bon,
voilà.
En effet.
Bon, donc, alors, soit je suis vraiment très bon, soit il y a un problème avec la formation RGE. Et j'ai vu aussi, puisque je ne suis pas qu'à l'association Négawatt, je dirigeais un bureau d'études que j'avais fondé sur ces questions énergétiques. Donc, j'ai beaucoup pratiqué. J'ai vu des devis de gens qui étaient RGE avec des erreurs monumentales dans les prescriptions. Donc voilà, c'est pas encore une bonne garantie. On a un problème, c'est évident, on a un problème avec la profession, notamment celle des artisans, plus que celle des grosses entreprises. Avec les grosses entreprises, on peut encore arriver à sortir des chantiers proprement.
Mais
avec
ces problèmes sont liés, pardon, à la pénurie de travailleurs dans le secteur, selon vous ?
Alors, c'est mon analyse, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas assez d'artisans. Résultat, c'est que les prix que j'ai beaucoup étudiés aussi sont souvent pas justifiés. Il y a deux professions notamment qui ont quand même exagéré ces dernières années. C'est les menuisiers, ceux qui changent les fenêtres, hein, et puis les chauffagistes, ceux qui changent les chaudières. C'était peut-être dû au mode d'attribution du CITE, hein,
du crédit d'impôt.
Voilà, du crédit d'impôt, voilà. Mais aujourd'hui, si vous refusez le devis d'un artisan en lui disant « mais c'est beaucoup trop cher, je sais combien ça vaut pas ça, etc. », il dira « allez voir un de mes confrères ». Et puis vous allez voir le confrère et c'est la même chose. Parce qu'ils ne cherchent pas de travail. Ils sont débordés de travail.
Mais comment on explique justement cette pénurie, Olivier Sidler ? En France, parce que cette pénurie, on la constate pas en Allemagne, par exemple.
On la constate ni en Allemagne, ni d'une manière générale dans les pays alémaniques. Hein. La Suisse, c'est pareil. Vous avez de très bons artisans et vous en avez autant que vous en voulez. Mon analyse à moi, c'est que on a voulu diriger depuis la milieu des années 80 tout le monde vers le bac, ce qui en soi pas une mauvaise idée. C'est-à-dire que les gens ont plus de culture générale et bon, sauf que. En France, on a eu le malheur, je pense, et on l'a toujours, d'avoir dévalorisé tous les métiers manuels qui étaient là où on allait quand on avait échoué partout. Et ça, c'est triste, c'est très grave, parce que c'est des métiers qui ont beaucoup de valeur. Franchement, un très bon quelqu'un qui fait un travail manuel de qualité, mais c'est merveilleux, c'est aussi bien qu'un col blanc qui fait un bilan comptable juste. Enfin, il y a pas de et du coup, tout le monde part vers la faculté qui donne des diplômes qui sont des diplômes qui font des chômeurs diplômés. Je vois les choses comme ça. Et du coup, on a moins de gens qui vont vers les métiers manuels considérés comme pénibles, mais aussi pas valorisés du tout dans la population. C'est très clair. J'ai pas le temps de raconter des anecdotes ici, mais le nombre de fois où j'ai pu me rendre compte que c'était un métier qui était fui par les jeunes, et ça c'est vraiment triste, parce que ils gagneraient mieux leur vie, et ils seraient plus satisfaits en faisant ces métiers-là qu'en allant se retrouver au chômage avec des diplômes qui sont pas suffisamment qualifiants, voilà.
Donc il y a un double enjeu qui est celui à la fois de la formation et celui de l'attractivité?
Exactement. Oui, ça c'est tout à fait le cas. Même les grosses entreprises, vous savez, s'inquiètent de savoir si demain elles auront assez de personnel, dans le bâtiment j'entends, pour satisfaire toutes les demandes qu'elles auront. On a un vrai problème de recrutement dans le secteur du bâtiment. C'est un secteur qui vieillit et où personne n'a vraiment envie d'aller.
Et donc pour vous, il faut peut-être plus de communication pour rendre ce secteur du bâtiment plus attractif pour les jeunes, sachant que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a appelé la semaine dernière les entreprises du bâtiment et de la construction à faire travailler le moins possible de travailleurs détachés dans les mois à venir et à privilégier l'embauche de jeunes. On comprend bien ici qu'il y a un enjeu important en termes de réponse au chômage.
Oui, bien sûr, la demande de Bruno Le Maire est très explicite, embaucher français, mais je suis pas sûr que les entreprises trouvent sur le marché français ce dont elles ont besoin, parce que c'est vrai que souvent c'est des métiers qui sont durs, il faut le reconnaître, hein, qui sont pas très valorisés, pas toujours très bien payés, il faut pas faire une règle générale avec ça, parce que souvent, les salaires peuvent être quand même de bonne qualité, mais c'est l'image. Je me souviens d'un chef d'entreprise qui avait proposé à 230 jeunes de venir voir sur les chantiers comment ça se passait, etc. Et à la fin, quand ils sont venus voir les uns et les autres, au bout d'un mois, il n'y en avait plus qu'un qui était resté. Et il me disait, vous savez, quand on est en boîte de nuit, dire qu'on est maçon sur un chantier, ça vaut rien du tout. On est fichu, donc on est grillé. C'est des métiers qui ont pas de valeur aux yeux de des gens.
Et pourtant, étant donné les besoins, Olivier Sidler, il pourrait y avoir une création de centaines de milliers d'emplois.
Oui, tout à fait. Si vous mettez en œuvre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire 24 milliards de travaux par an pour la rénovation, chaque milliard crée 12 000 emplois directs ou indirects. Ça veut dire que vous pouvez créer plus de 250 000 emplois, entre 250 et 300 000 emplois, qui vont durer toute la durée du plan, c'est-à-dire 30 ans, ces créations d'emplois. Si vous lancez ce programme de rénovation massivement, c'est-à-dire sur 700 000 rénovations par an. Donc il y a là quelque chose de très important. Je voudrais aussi ajouter quelque chose à l'intention de la profession. La profession a pas toujours fait bien attention à ce qui va se passer dans les années qui viennent. D'après les prévisions de l'INSEE, la population française va continuer à croître, mais ça va se tasser un petit peu d'ici 2050. Si bien que le nombre de logements neufs qu'il va falloir produire va chuter. Vers 2040, alors aujourd'hui, il se situe entre 350 et 400 000 logements neufs par an. Mais en 2040, il pourrait n'être plus que de 150 000, voire 100 000 logements par an neufs. Ça veut dire que tous les gens qui travaillaient dans ce secteur de la construction neuve n'auront plus de travail. Et où est-ce qu'ils ont du travail en échange? Et ça, il faut qu'ils le comprennent très vite pour changer un peu leurs pratiques et leurs compétences. C'est dans la rénovation. Donc la rénovation, c'est un marché qui est vraiment essentiel pour les années qui viennent, pour le monde du bâtiment. Et il faut que celui-ci s'en empare, ce qui n'est pas le cas. Hein. Si vous regardez les positions des fédérations professionnelles, elles sont tout à fait étonnantes. Ils vont complètement en marche arrière vers la rénovation. Alors, certains de leurs arguments sont justifiés. Ils disent qu'il n'y a pas de visibilité. C'est vrai qu'il n'y a pas de visibilité. Les politiques changent chaque année, mais comme il n'y a pas de gros marché de la rénovation tant qu'on sera sur de l'incitation, les artisans et les entreprises disent nous, on n'a pas de raison d'investir dans un secteur où on ne sait pas trop de quoi demain sera fait.
Mais alors, on sait de mieux en mieux de quoi demain sera fait, puisqu'il y a ce plan de relance, en tout cas, qui devrait être annoncé jeudi et qui devrait nous donner plus d'informations. Est-ce que cette rénovation énergétique pourrait être un bon moyen de relancer l'économie? On continue à en parler dans un instant.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin d'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Les ampoules à nu pendent des murs du plafond. Le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit et vêtement par vêtement. Petit à petit et vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver.
Quatre murs et un toit de Benabar. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho et nous poursuivons notre discussion sur le défi de la rénovation énergétique. Nous sommes en compagnie du porte-parole de l'association Négawatt, Olivier Sidler. Alors on l'a dit, malgré les incitations financières, le chantier de la rénovation thermique avance encore trop lentement. Il faut dire qu'on manque de données sur l'état du parc immobilier à la fois public et privé, Olivier Sidler.
Oui, on ne sait pas grand-chose de très juste. Ce qui est normal, parce que pendant des années, on ne s'est pas occupé de la consommation des logements. On a créé en 2007 le fameux diagnostic de performance énergétique, le DPE, et on s'appuie sur les 6 ou 7 millions de diagnostics qui ont été faits jusqu'à présent. Mais la qualification requise pour faire ces diagnostics est quand même très insuffisante, si bien que quand on regarde dans cette base de données de 6 millions de diagnostics, il y a un nombre d'incohérences qui sont invraisemblables, qui est invraisemblable, si bien qu'on a beaucoup d'incertitudes sur l'état du parc et la consommation des... Il n'y a pas de compteur la plupart du temps, donc tout ça est fait à partir de factures, dans des conditions qui sont pas les mêmes d'un logement à l'autre, les températures sont pas forcément les mêmes, le nombre de pièces chauffées pas les mêmes, bref. On n'y voit pas très clair, il faut être très très honnête hein, sur ça, et il va falloir quand même pas mal d'années avant d'y voir clair.
Et à ces difficultés s'en ajoute une autre, la complexité des démarches pour les particuliers. Il est difficile de s'y retrouver entre les crédits d'impôt, les prêts à taux zéro et les différentes primes, Olivier Sidler.
Alors ça, c'est vraiment une spécificité française. Quand on regarde les modes de financement qui ont été imaginés dans les autres pays, il y a une lisibilité qui est quand même beaucoup plus évidente pour les particuliers qui veulent faire des travaux. Chez nous, c'est vraiment kafkaïen. C'est incroyable qu'un pays comme le nôtre, avec le cartésianisme qui est le nôtre, on ait pu imaginer des dispositifs aussi complexes que ceux qui sont en place aujourd'hui. Alors, il vient d'y avoir quelques réformes, mais qui n'ont pas changé les choses, qui les ont même plutôt complexifiées. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il fallait faire 8 dossiers de demande, il fallait attendre jusqu'à 1 an et demi les réponses. Enfin bref, c'est extrêmement compliqué. On perd la moitié des gens motivés, ne serait-ce que sur le montage du financement de leur rénovation. C'est incroyable. Il faut aller vers ce qu'on appelle le guichet unique. Et l'idée que je proposais tout à l'heure, selon laquelle il y aurait un prêt à taux zéro fourni par l'État, ben c'est simple. Il y a un seul mode de financement et forcément un seul guichet à ce moment-là pour le distribuer. Ça simplifierait tout et ça deviendrait réellement opérationnel.
Et ce qui n'aide pas peut-être à motiver les particuliers, c'est le fait que ce sont les propriétaires qui sont amenés à payer ces travaux, alors qu'en termes de facture d'énergie, finalement, ce sont les locataires qui en profitent.
Alors ça reste une difficulté éternelle. Je pense pas qu'elle soit qu'il n'y ait pas de solution. Il y a des moyens, je pense, de modifier le loyer, de faire qu'il y ait des accords nationaux, des lois même qui fixent des règles. Et à partir de ce moment-là, le particulier pourra effectivement faire des travaux. Bon, il aura un loyer qui sera adapté. Puis, lorsque tout ça sera amorti, ben le loyer redeviendra ce qui devrait être à ce moment-là. Il y a des solutions. Il faut de la bonne volonté des uns et des autres. Ça, par contre, c'est pas toujours le cas.
Et un autre objectif aujourd'hui qui a été en tout cas affiché comme tel par le gouvernement, c'est la nécessité d'élargir l'accès aux aides à d'autres bénéficiaires. C'est-à-dire notamment effectivement le fait de permettre à tous les particuliers et pas seulement les particuliers les plus modestes d'accéder à ces aides, mais aussi pas seulement les propriétaires occupants, mais également les propriétaires bailleurs. Il y a une volonté comme ça d'élargir l'accès à ces aides.
Ça a toujours été, hein. Il y a toujours eu une volonté que tout le monde puisse y aller, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les propriétaires bailleurs se demandent à quel intérêt ils ont à faire ce genre de travaux. Ça reste, là, ce problème il n'est pas réglé, il sera réglé peut-être par ce qui est en train d'être mis en place dans ce qu'on a appelé la petite loi de l'énergie en novembre 2019, qui rend obligatoire la rénovation des logements de classe F et G d'ici 2028 ou 2030. Vous êtes propriétaire d'un logement de cette nature, vous devez l'avoir rénové d'ici 2030. Bon, les décrets d'application sont pas encore forcément dans les tuyaux, mais c'est un projet c'est une loi qui existe, hein, qu'il va falloir maintenant appliquer. Et la sanction sera, vous n'avez plus le droit de les louer si vous n'avez pas fait la rénovation. Donc ça va devenir assez radical. Bon, maintenant il faut le mettre en œuvre, c'est pas tout d'en avoir fait une loi, il faut maintenant passer à l'étape concrète et on n'y est pas encore. Mais ça va dans la bonne direction, c'est vrai.
La seule solution qui marche sur le long terme, c'est de rénover énergétiquement ces logements qui sont des passoires énergétiques aujourd'hui. Et il faut le faire de façon entière, globale, performante, pour sortir vraiment les gens des difficultés. Aujourd'hui, la plupart des aides se concentrent sur des gestes isolés, parfois simplement un changement de chaudière qui fait gagner 10% d'économie d'énergie. Or, aujourd'hui, sur les 10 dernières années, l'électricité a augmenté de 44%. Donc, quand vous faites une aide qui permet de réduire de 10%, en 2-3 ans, vous repayez la même facture. 5 ans après, votre facture a augmenté. Donc, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. On va y arriver en améliorant de façon très importante les logements, en concentrant sur la performance et en donnant aussi des signaux importants au marché. Par exemple, de dire qu'aujourd'hui, il est obligatoire de rénover son logement quand il a de très mauvaises performances, et a fortiori quand on loue, qui deviendra à très court terme interdit de louer à quelqu'un une passoire énergétique. Voilà des mesures qui pourraient être prises pour vraiment sortir drastiquement et rapidement de cette situation.
On vient d'entendre Jean-Baptiste Lebrun, le directeur du CLER, le réseau pour la transition énergétique. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce qu'il nous dit ici. D'abord, comment inciter les professionnels du secteur et les particuliers à rénover un bâtiment de façon globale plutôt que de multiplier les petits gestes, comme cela se fait beaucoup à l'heure actuelle, Olivier Sidler?
Ben, il faut simplement leur expliquer la réalité du résultat qu'ils vont obtenir. Quand on fait par petits gestes, imaginons que vous fassiez par petit geste une rénovation complète. Vous allez jusqu'au bout, mais vous le faites en 5, 6, 7 fois. Ben déjà, ça va vous coûter 25% plus cher. Parce qu'il faut rouvrir des chantiers, il faut remettre des échafaudages, etc. Faut que les artisans viennent 50 fois faire des devis, etc., etc. Donc ça vous coûte toujours beaucoup plus cher. Deuxièmement, la performance, comme je vous le disais tout à l'heure, elle n'est pas du tout au rendez-vous. C'est-à-dire que vous allez perdre au moins 30% sur l'économie d'énergie. Donc ça rend beaucoup plus fragile l'équilibre économique de l'opération, qui est d'une part plus cher et d'autre part qui vous fait moins gagner d'argent. Donc c'est la solution, vraiment, c'est celle qu'il faut éviter à tout prix, et c'est celle qui est encouragée depuis toujours par tous les gouvernements en place, en se disant on est un pays libéral, on va rien rendre obligatoire, on va laisser les gens choisir. Mais en faisant ça, on les amène tous vers des échecs, si bien que tôt ou tard, la réaction, ça sera « moi, je veux surtout pas faire des travaux de rénovation chez moi, regardez, chez mon voisin, il l'a fait, c'est une catastrophe économique, etc. etc. » Donc, faut vraiment oublier ça. Alors, plus loin, il y a en plus un risque de pathologie. C'est-à-dire que, bien souvent, vous allez changer les fenêtres, mais si vous changez les fenêtres, elles seront étanches à l'air, etc., parce qu'elles sont neuves, elles seront bien faites. Vous n'aurez plus de ventilation dans votre logement, qui fonctionnait essentiellement par infiltration d'air. Vous aurez donc des condensations, des moisissures, des pathologies sanitaires, des problèmes d'asthme et tout ce que vous voulez, avec les allergies. Donc, ça, faut avoir conscience que mal rénover, en plus, c'est avoir des problèmes de pathologies de santé derrière. Vous perdez le confort, parce que si vous n'avez pas rendu suffisamment étanche votre logement, vous avez des mouvements d'air à l'intérieur du logement qui le rendent inconfortable, etc. Donc vous n'avez aucun intérêt, il faut être très clair, très très clair même, vous n'avez aucun intérêt à faire de la rénovation par étapes. Vous devez systématiquement, ça sera toujours mieux pour vous, moins cher et de meilleure qualité, faire des rénovations qui sont globales et en une seule fois, donc vous faites une seule fois les travaux, puis c'est terminé. Et au bon niveau de la performance, c'est-à-dire les épaisseurs d'isolant suffisantes, etc.
Alors ça, c'est pour les particuliers, mais du côté des professionnels du secteur, selon le domaine dans lequel ils travaillent, ils ont tout intérêt à faire pression sur le gouvernement pour qu'il y ait des aides dans leur domaine, que ce soit effectivement les chaudières, les vitres.
Alors, si on voit les choses comme ça, on a perdu d'avance. Effectivement, il faut pas que chacun vienne. Alors, les chaudières, c'est pas les professionnels qui ont fait pression, c'est le gouvernement qui s'est dit que si on changeait les chaudières et qu'on supprimait les chaudières à fioul, on ferait des économies sur les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est une évidence, hein. Mais il faut surtout pas raisonner par secteur. Il faut raisonner globalement, c'est le rôle d'un gouvernement. Et il faut donc donner des aides ou des moyens de financer qui soient globaux pour un ensemble de tâches. Après, chantier par chantier, maison par maison, bâtiment par bâtiment, se définiront la nature des travaux exacts à mettre en œuvre. Voilà comment il faut faire. Il faut pas raisonner par, il faut surtout pas de pression des différents lobbies. Ils sont nombreux, c'est vrai, mais il faut pas sombrer dans ça si on veut mettre en place une politique énergétique de qualité.
On a parlé des avantages financiers que pouvait représenter la rénovation énergétique pour les particuliers. Il y a aussi des avantages économiques à l'échelle de l'Hexagone, notamment le fait que la rénovation énergétique pourrait être un moyen de réduire le déficit commercial de la France, Olivier Sidler.
Oui, forcément, puisque nous ne produisons pas nos hydrocarbures, que ce soit du gaz, du pétrole, etc. On le produit pas, on l'importe d'un peu partout sur la planète. Et ces importations, c'est 60 milliards d'euros par an. Donc, à partir du moment où on fait des économies sur les consommations d'énergie, on va réduire ce niveau d'importation et on va rééquilibrer en partie la balance commerciale française.
Et c'est aussi un avantage sur le plan local, puisque chaque région dispose de ses propres ressources pour l'isolation des bâtiments, que ce soit la paille ou que ce soit le bois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Olivier Sidler ?
Alors, déjà, il y a fondamentalement quelque chose d'assez important, c'est que l'argent que je ne mets plus dans la dépense énergétique, je l'ai mis dans des travaux d'amélioration des bâtiments. Ces travaux, c'est de la main-d'œuvre locale, donc sur l'ensemble du territoire, et ça, c'est déjà très important, et c'est de la main-d'œuvre qui n'est pas délocalisable. Ça se fera pas en Chine, ça se fera toujours dans tous les villages de France. Donc, cet investissement dans les travaux de rénovation, c'est à la place d'aller dépenser cet argent dans l'importation d'hydrocarbures, de gaz, de pétrole et de ce que vous voulez. Donc ça, ça a déjà une grande vertu. Ensuite, effectivement, la nature des matériaux qui sont utilisés pour les travaux, ben, dans la plupart des cas, ça va être fait à partir de produits qui sont plus ou moins locaux, on va dire les choses comme ça, ils sont au moins nationaux. Et puis après, chaque région peut effectivement développer des particularités. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'isolants qui tournent autour du bois, que ce soit la fibre de bois, que ce soit la laine de bois. Tous ces matériaux-là sont utilisés. Il y en a plein d'autres encore. Et j'insiste pour dire que ces matériaux ne sont pas les plus chers, comme on l'entend souvent dire. Ils sont même parmi les moins chers qui existent dans la rénovation. Il faut pas hésiter à les utiliser en priorité, parce qu'effectivement, c'est des matériaux qu'on appelle biosourcés. Ils sont faits à partir de produits de la nature, qui sont renouvelables donc, et ça a des grandes vertus par rapport à d'autres matériaux qui sont de très bons isolants, mais enfin qui utilisent des hydrocarbures pour leur fabrication. C'est pas trop la tendance vers laquelle il faut aller.
Alors, comment accélérer la transition écologique des bâtiments, Olivier Sidler ? Est-ce qu'il faut rendre obligatoire la rénovation thermique ? Écoutez d'abord ce qu'en disait Emmanuel Macron le 29 juin dernier lors de la Convention citoyenne pour le climat.
On s'est arrêté à une position qui vous apparaît trop timide. Parce qu'on n'a pas totalement interdit les passoires thermiques avec une date. Et si le gouvernement, avec les acteurs du secteur, le Parlement, ne l'a pas totalement interdit, c'est qu'il a vu que si on y mettait les moyens actuels, interdire, c'était au fond mettre des ménages qui sont parfois en situation modeste dans des situations impossibles, et c'était réduire l'offre de logement, et donc accroître le mal-logement dans notre pays. Il y a sans doute un chemin qui rend la chose possible, et c'est ça que nous allons travailler, sur la base de vos propositions avec vous, pour le finaliser. C'est d'investir davantage pour être au rendez-vous de cette ambition. Et donc, d'une part, investir pour transformer plus vite tout ce qui est dans le parc public ou chez les bailleurs, accompagnant financièrement, et investir pour accompagner les ménages les plus modestes pour qu'ils ne soient pas face à une impasse.
Olivier Sidler, vous l'avez dit, pour vous, l'incitation ne marche pas. Il faut passer à la contrainte. Mais alors, comment fait-on effectivement vis-à-vis de ces particuliers, de ces ménages qui ne peuvent pas se permettre ces travaux ?
Pour être très clair, 90% des ménages ne peuvent pas se les permettre. C'est ce que j'ai observé quand je formais les artisans sur le terrain, qu'on allait voir les gens, qu'on leur demandait quel était leur budget, etc. Donc 90%, voire 95% des Français, des ménages français, peuvent pas se le permettre, ce financement, si on les laisse tout seuls. Donc, logiquement, on fait le benchmark avec Sciences Po, on découvre que tous les pays qui font de l'incitation n'arrivent à rien. En tout cas, ils vont pas du tout assez vite, il faudrait aller 30 fois plus vite. Donc, faut rendre obligatoire. Ça, c'est tout à fait clair. Mais il y a des conditions. Je peux pas rendre obligatoire, comme dans la première partie de son intervention, le président semble le dire, les ménages peuvent pas. Ben oui, ils peuvent pas. Donc, il faut que on leur fournisse un financement. Et j'insiste, pour tous les ménages, sans exception. Après, on verra, les très riches, etc., il y a d'autres manières de s'y prendre, mais je veux offrir un financement pour tout le monde. Et ce financement, la manière la plus simple et la moins chère pour l'État, je l'ai dit, c'est qu'il favorise les prêts à taux zéro. Lui, il paye les banques du montant des intérêts, et les usagers ne remboursent que du capital. Et l'idée, c'était de tirer actuellement le prêt à taux zéro, il est sur une durée de 15 ans. Bon, c'est trop court. Et je propose qu'on puisse tirer cette durée jusqu'à 30 ans. Au-delà, ça finit par être un petit peu cher. Pourquoi ? Parce que sur 30 ans, j'arriverai bien, à un moment donné, à avoir des annuités du remboursement de ce capital qui vont devenir inférieures à mes économies d'énergie. Donc je fais gagner de l'argent au ménage dès la première année avec ce dispositif-là. Et je vous l'ai dit, au taux actuel, ça coûte un peu plus de 2 milliards par an à l'État pour financer 24 milliards de travaux, c'est-à-dire 700 000 rénovations par an. Si vous faites pas ça, effectivement, il faut même pas envisager la question de la rénovation, l'obligation de rénovation, pardon. C'est pas possible, les gens peuvent pas payer. Et puis, la dernière chose, c'est le guichet unique. Donc, on l'aura automatiquement. Juste une petite chose, il est possible d'imaginer une variante qui serait qu'il y ait une subvention et un prêt qui serait à taux zéro, lui aussi, et la subvention permettrait de réduire le montant que devra rembourser le ménage. Donc vous comprenez l'intérêt de cette variante, c'est que sur des ménages très précaires, qui, on va être, moi j'en ai vu, hein, ils se chauffent à 13 ou 14 degrés, donc une fois qu'ils auront rénové, ben ils se chaufferont à 20, donc ils feront moins d'économies. Pour que ça marche aussi pour eux, mais il faut que la part subvention soit plus importante, elle pourrait être de 50-60% du montant des travaux, et il leur resterait juste à ce moment-là 40% à rembourser. Et ce taux de subvention pourrait varier, les très riches ne pourraient n'avoir que 20% de subvention, et puis ceux qui ont des besoins plus importants pourraient monter bien au-delà, 60-70%, ça c'est à voir.
Et l'idée par exemple, ce serait de rendre obligatoire ces travaux au moment de l'achat d'un logement ?
Alors, c'est ce qui est le moins douloureux, parce que quand vous êtes dans un logement, bon, ça peut faire quand même de la gêne, hein, il faut pas se cacher derrière son doigt. Et donc, moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que au moment de la démutation, c'est indolore. Or, il y a actuellement, chaque année, de l'ordre de 600 000 logements d'avant 1975 qui sont en mutation, qui sont vendus, etc. Donc on est presque à nos 700 000, donc ça pourrait être l'occasion, c'est un moyen de faire. Le seul inconvénient, c'est que vous mélangez toutes les classes énergétiques, il y en aura bien qui seront en classe A ou B dans les 600 000 qui sont vendus chaque année. Et l'autre stratégie, c'est de dire, on va plutôt viser les logements qui sont dans les classes énergétiques les plus mauvaises pour faire des économies tout de suite et le plus rapidement possible, donc, et viser d'abord les classes F et G, puis ensuite revenir les classes E, les classes D, et puis peut-être les classes C, mais on n'ira pas plus loin de toute façon. Hein.
Et alors, vous l'avez entendu, Olivier Sidler, il y a une bonne partie des 30 milliards d'euros du plan de relance qui devrait être consacrée à la rénovation énergétique. C'est tout de même une somme extrêmement conséquente qui est aujourd'hui débloquée.
Alors, les chiffres exacts pour la rénovation énergétique, c'est 6,7 milliards. Rien d'autre. Il y a beaucoup de monde sur le plan de relance et finalement la rénovation ne disposera que de 6,7 milliards. Sur ces 6,7 milliards, 4 milliards seront consacrés à la rénovation des bâtiments publics. Un demi milliard ira au logement social. Et il n'y a que 2 milliards qui reviendront au parc privé, celui dont on parle depuis tout à l'heure. Ce n'est pas énorme.
Et sur deux ans.
Et sur deux ans, exactement, il faut le préciser. Si on fait des calculs en se disant c'est de la subvention, 2 milliards d'euros vont permettre la rénovation de 80 000 logements au bon niveau de performance, enfin ce que j'appelle la rénovation complète et performante, sur les deux ans, c'est-à-dire 40 000, 40 000. C'est presque ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait entre 25 et 30 000 logements au niveau BBC. Donc ça doublerait. Mais on est loin, loin, loin des 700 000 qu'il faudrait faire. On n'est pas du tout dans l'ordre de grandeur. Si, en revanche, mais c'est pas ce qu'il a prévu, hein, l'État a prévu de passer ces 2 milliards via MaPrimeRénov, c'est-à-dire de la subvention. Mais je pense qu'il serait bien inspiré, l'État, le gouvernement, pardon, si ces 2 milliards, il les investissait en bonne partie dans un prêt à taux zéro. Et à ce moment-là, ce n'est pas 80 000 logements qui pourraient rénover, c'est 10 fois plus.
Que le prêt à taux zéro a vos faveurs, Olivier Sidler. On arrive presque au terme de cette émission. Pour conclure, est-ce que vous diriez que la rénovation thermique est un bon moyen de relancer l'économie à l'heure où, on le sait, on a une inquiétude qui grandit à propos du chômage de masse et des faillites d'entreprises?
Alors, évidemment que c'est une excellente façon de relancer l'activité, pour plusieurs raisons. Celle que vous dites, il y a un chômage de masse qui arrive. Dans le fond, la compétence qu'il faut acquérir pour travailler sur la rénovation, c'est pas la plus complexe qui soit, donc on pourrait former assez vite un certain nombre de gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment une course contre la question du changement climatique. Le bâtiment, c'est quand même l'endroit le plus simple pour faire le plus vite possible des réductions de gaz à effet de serre. Les objectifs qui sont dans la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est la feuille de route de la France jusqu'à 2030, elle, si vous la traduisez correctement, elle vous dit qu'il faut, à partir de maintenant, rénover 540 000 logements par an au niveau BBC entre 2020 et 2030. Donc on est tellement loin des objectifs qui sont fixés dans les termes de la loi qu'il faudrait s'en rapprocher. Et pour s'en rapprocher, mais j'insiste vraiment, il faut trouver des modes de financement originaux de la rénovation. Il faut arrêter d'arroser des subventions dans tous les sens qui produisent à peu près rien. Il faut venir à une stratégie de rénovation complète et performante, d'une part, et puis une obligation et un financement qui sera forcément construit sur des prêts à taux zéro, que ces prêts à taux zéro viennent de l'État français ou viennent de l'Europe, puisqu'on peut aujourd'hui commencer à imaginer qu'il y ait de l'argent qui vienne de l'Europe directement sur les acteurs et pas sur les banques, puisque Mario Draghi, entre 2014 et 2016, avait fait ça, et les banques, au lieu de réinvestir dans l'économie réelle, avaient renvoyé 89% de l'argent créé par Mario Draghi sur les marchés financiers. C'est pas le but. Donc là, il y a différentes façons de procéder sur le financement qu'il faut à tout prix, mais très vite, mettre en œuvre si on veut pouvoir lancer ces plans et arrêter de, excusez-moi, mais bricoler, parce qu'on bricole aujourd'hui, même le plan de relance est un mode de bricolage. Il faut changer complètement de braquet. Pour ça, il faut trouver d'autres modes de financement beaucoup plus imaginatifs. Et celui que j'ai proposé n'est pas très malin, mais au moins il marche.
Et les enjeux environnementaux sont considérables. Vous l'avez dit, le bâtiment, c'est le plus gros consommateur d'énergie et le second plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Olivier Sidler.
Oui, 45% de la consommation d'énergie en France, c'est le bâtiment. Et 20% des émissions de gaz à effet de serre sont celles du bâtiment. Du bâtiment, c'est-à-dire à la fois secteur résidentiel et tertiaire. Le secteur résidentiel tout seul, les logements, c'est 12,5%. Et par comparaison, le premier secteur, c'est les transports, c'est 28%.
On comprend bien que le chantier demeure vaste. Merci beaucoup, Olivier Sidler, de nous avoir éclairé sur tous ces enjeux, d'avoir été avec nous en direct depuis les studios de Radio France à Valence. Un grand merci également aux techniciens qui ont assuré ce duplex. Olivier Sidler, les références de vos tribunes sont à retrouver sur la page d'Entendez-vous l'écho sur franceculture.fr pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin. Merci infiniment.
Merci.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Encore un potentiel champion industriel en vue avec la possible fusion des leaders mondiaux de l'eau et de l'environnement, Veolia et Suez. Des méga-fusions qui se multiplient en Europe et qui sont un défi pour l'organisation de la concurrence.
Et oui, d'abord cette fusion concerne deux groupes situés en France, l'un des pays justement les plus actifs dans le plaidoyer pour un assouplissement du droit européen. Et les intéressés sont réticents. Déjà Suez a prévenu que l'offre de Veolia engendrerait des dyssynergies et des pertes d'opportunités en France et à l'international. Bruno Le Maire, lui, s'est dit attentif au maintien d'une pluralité d'acteurs sur les services aux collectivités locales et sur le plan européen. Effectivement, deux ONG ont déjà saisi la Commission à la concurrence pour risque de monopole. On le voit, cette concentration au sommet dans le marché mondial de l'environnement réveille certains spectres, celui de champion industriel tueur de compétition et celui d'une autorité de la concurrence étrangleuse d'opportunités.
Et la situation de guerre économique mondiale pèse de plus en plus sur le droit à la concurrence européen.
En effet, Tata ThyssenKrupp, Alstom Siemens, Saint-Nazaire Fincantieri, ces méga-fusions souvent présentées avec la bénédiction des gouvernements intéressés comme des actes de souveraineté industrielle, viennent se fracasser sur l'un des piliers de la souveraineté de l'Union. Dans les textes, c'est le souci d'une concurrence libre et non faussée. D'où une certaine tension. L'année dernière, Bruno Le Maire, qui parlait d'erreurs politiques et économiques, ne cachait pas son amertume après le refus de la fusion Alstom-Siemens. Le débat entre partisans de géants industriels européens et défenseurs d'une neutralité, disons, de la concurrence n'est cependant pas nouveau, puisque le premier refus est intervenu en 1991, lorsque l'avionneur français Aérospatial voulait racheter le canadien De Havilland. Il a donné lieu à la même confrontation d'arguments de politique industrielle et politique de la concurrence. Depuis, la commission de la concurrence de l'Union a été accusée de dogmatisme, d'inquisition, voire de démagogie. Pourtant, son bilan industriel n'est pas une hécatombe, seulement le dixième. 10 fusions bloquées en 10 ans, rappellent les échos. Mais c'est vrai que face à la menace nouvelle des GAFA, ou surtout de grands groupes chinois assez opaques, subsiste le fait que la commission passe pour être sourde et aveugle.
Alors, y a-t-il un moyen de cesser d'opposer politique industrielle et politique de la concurrence? Il faudrait changer les règles du jeu, Xavier?
C'est en tout cas désormais une demande formelle de la part de 4 États membres, Allemagne, France, Italie, Pologne, qui presse la commission à la concurrence de réformer son fonctionnement en le rendant plus collégial. Dans le même sens, dans un rapport cette année, la fondation Robert Schuman plaide pour une réforme du droit lui-même et propose de créer une instance de décision indépendante de la commission et même d'introduire ce qu'elle appelle un droit d'évocation aux politiques. Autre solution originale, que le droit à la concurrence autorise des positions dominantes transitoires pour rééquilibrer le jeu concurrentiel à moyen terme, c'est-à-dire le temps, par exemple, de faire face à un gros acteur qui menace directement certains marchés, typiquement le train européen face à la CRRC chinoise. Alors, plutôt qu'une réforme des règles, d'autres, comme le spécialiste François Brunet, préconisent de renforcer les pions, d'abord en finançant mieux la politique industrielle de l'Union, mais dans ce contexte de tensions économiques accrues et d'une concurrence opaque, donc l'idée serait aussi que l'autorité de la concurrence elle-même soit plus stratégique, en la dotant d'un vrai service d'intelligence économique ou de renseignement, si vous voulez, les yeux et les oreilles dont elle manquerait.
Il y a donc des possibilités techniques, reste une question théorique, les champions sont-ils le meilleur moyen pour dynamiser une politique industrielle?
Ah, c'est difficile à dire, là il n'y a pas vraiment, qu'on me pardonne, de théorie du dynamisme industriel, à part l'idée qu'il n'existe pas sans innovation et donc de gros capitaux. Quant aux théories des marchés, elles prohibent en principe les monopoles et toute situation dominante qui présente en ce sens un risque, mais l'histoire économique est aussi riche d'exemples où la modernisation et la puissance de certains États a été conquise au moyen de groupes déjà gigantesques, particulièrement en période de rattrapage économique, essor de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon au 19e, ou encore 30 glorieuses en France. Et aujourd'hui, en période de relance, le débat persiste. Certains dénoncent régulièrement un mythe des champions, comme encore une fois François Brunet qui affirmait cette année que de nombreux économistes estiment désormais que la politique européenne de la concurrence a été un facteur clé du dynamisme de l'économie européenne au cours des 20 dernières années. À l'inverse, ajoute-t-il, le relâchement de la régulation et les concentrations des 20 dernières années aux États-Unis ont diminué leur performance économique. Vous le voyez, rien n'est simple, mais une chose est sûre, la commission à la concurrence qui examine quel impact les fusions ont sur les prix et les acteurs du marché aura du mal à intégrer la menace de la concurrence extra-européenne comme un paramètre nouveau. Pour l'instant, elle ne peut rien dire de l'opportunité stratégique des fusions.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve demain pour un nouveau Journal de l'Écho.
Got your number lonely, October 33. I wear it on my soul's back like fa-fa-fa. And I can hear the brass string, I hear it in the nosebleeds. Where you once felt a cold breeze, think it was Halloween. I've got your number lonely, October 33. It's cold facts.
October 33 des Black Pumas. Demain, le gaz naturel n'est-il qu'une entreprise de greenwashing? Nous poserons la question à Anna Créti, professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine et directrice de la chaire économie du gaz naturel. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.